Une petite question pour commencer. Bien. Comment résumeriez-vous l'histoire de la Bible en une seule phrase? Comment résumer l'histoire de la Bible en une seule phrase? Ça, c'est une question, hein? Et c'est un défi. T'as une réponse? Oui? Le Seigneur nous a tant désiré. Oui. Pardon? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le chemin à la vérité. Dieu est amour. Le bon choix de Dieu. Voilà, il y a plusieurs réponses qui peuvent être données. Celle que je vous propose ce matin, c'est que c'est l'histoire d'un père qui veut se constituer une famille. L'histoire d'un père qui veut se constituer une famille. C'est beau, hein? Et cette famille, eh bien, c'est l'Église. On voit qu'il y a plusieurs versets de la parole qui présente l'Église comme une famille. Alors, il y a d'autres métaphores qui sont proposées. C'est un corps, c'est une armée, il y a différentes comparaisons. Mais il y a également celle de la famille. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, écrivait Paul à l'église d'Éphèse il y a bien quelques siècles en arrière. Et cette famille qui a vraiment été désirée par Dieu, on voit qu'elle est vraiment chérie par Dieu. On peut lire dans Éphésiens 5, « Marie, aimez votre femme », alors je ne vais pas m'arrêter là-dessus ce matin, mais parce qu'on sait comment il faut l'aimer en lisant la suite, « Comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. » C'est extraordinaire, hein ? « Nous sommes les membres du corps de Christ. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Si j'étais pasteur dans une autre église, je dirais, dis à ton voisin, tu es membre du corps de Christ. Mais je ne veux pas le faire. Si vous voulez le faire, vous êtes libre. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes frères et sœurs, puisque nous sommes enfants aussi. Nous sommes membres les uns des autres. Membre d'une famille que Dieu s'est acquise à très grand prix. Il a payé le prix, hein, par sa mort. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Et l'Église, c'est quoi alors? Ou plutôt c'est qui? Eh bien, c'est chacun de nous, chacun qui a passé par une nouvelle naissance, qui a reconnu être pécheur, avoir besoin du salut de Jésus-Christ, qui a accepté ce salut, qui s'est repenti de ses péchés, de sa conduite, et qui maintenant proclame que Jésus est sauveur et Seigneur. Là, ce sont là les vrais enfants de Dieu. Il y en a beaucoup dans cette salle. Ça vous réjouit, ça? Hein, d'être enfant, d'être membre du corps de Christ, c'est incroyable. D'être membre et puis d'être membre les uns des autres aussi. Et alors, si nous sommes frères et sœurs, alors il est naturel de vivre l'Église comme une communion fraternelle. Et ce verset, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, qui est bien connu, Actes 2, 42, on se situe après la Pentecôte, l'Esprit-Saint vient de descendre sur les disciples qui étaient dans la chambre haute, qui attendaient. Et puis, il y a énormément, des milliers de personnes qui ont été touchées par le message de Pierre. Et il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors ce matin, je vais m'arrêter sur la communion fraternelle. L'enseignement, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses. La prière aussi, la fraction du pain également. Mais c'est un des éléments, vous allez voir, qui est primordial dans la vie de l'Église primitive, mais qui est primordial aussi pour notre vie à nous, en tant qu'Église, en tant que communauté. Alors, il y a bien sûr un préalable d'abord à la communion fraternelle. Il faut que les membres, les personnes qui sont là, bien comme je l'ai dit, soient et reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est que nous soyons en communion déjà avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut lire dans 1 Jean 1, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Et le dernier verset de la deuxième épître des Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et alors, nous serons en communion les uns avec les autres. Je reviens dans 1 Jean 1, mais si nous marchons dans la lumière, donc si nous sommes pour marcher dans la lumière, ce n'est pas par nos propres forces, on l'a rappelé, hein, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par ton esprit. Et tout ce que je vais dire, ça, c'est uniquement par l'Esprit de Dieu que c'est possible. 1 Jean 1, 7, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Nous sommes en communion, alors là, les uns avec les autres. Nous sommes ensemble, nous pouvons vivre cette communion intense. Et c'est extraordinaire parce que ça commence par la communion avec Dieu. Dieu qui est d'accord, si je puis dire, de vivre en communion avec nous, hein, qui nous permet de partager sa communion, qui nous permet de partager sa lumière, qui nous permet de partager sa vie. Alors, le mot communion, je suis un petit peu, voilà, de grec, ça fait bien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est important de voir quand même ce qu'on y met. C'est le terme koinonia. Et c'est un terme, cette communion, c'est pas une communion comme ça, hein, un peu dans les nuages. C'est une communion qui est extrêmement concrète. Ce n'est pas une communion spirituelle seulement. On se réunit pour le culte et puis on se dit, ben voilà, on est en communion les uns avec les autres. Oui, bien sûr. Mais il y a dans le terme qui est utilisé, koinonia, une idée de partenariat, une idée de partage, de distribution, de participation sociale, de participation financière, de compagnonnage. C'est donc quelque chose d'extrêmement concret. On n'est pas dans quelque chose d'un peu éthéré, un peu vague, comme ça, on est en communion, c'est beau la communion entre les frères et les sœurs. Cette communion si belle entre les frères et les sœurs, eh bien, elle est basée, elle est fondée sur du concret. Et on va voir les textes qui suivent. Si on lit dans Actes, on voit après, on a vu Actes 2, 42, eh bien, on voit comment ça se manifestait, cette communion. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. C'est beau, c'est beau. C'est vrai que ça nous fait paraître un peu, ça paraît un peu idyllique. On se dit, waouh, si on avait vécu ça, hein, on ne serait peut-être pas comme on est. Et puis aussi, ben, ça demande un engagement, ça demandait vraiment cette disponibilité de cœur, cette attitude de cœur de vendre nos biens et de les distribuer, de donner à ceux qui en ont besoin. Et puis, il y a aussi un très beau texte, deux chapitres plus loin, acte 4, versets 32 à 35. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. On voit cet aspect très concret de cette communion fraternelle, mais qui était vraiment, qui venait de l'intérieur. Hein. Humainement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. On le voit avec le communisme, par exemple, qui a tenté d'imiter un peu ça, ben, ça a un peu foiré. Là, c'était un seul cœur, une seule âme. Tout le monde était d'accord et ils mettaient ce qu'ils avaient compris de Dieu en pratique. Ils mettaient en pratique le fait qu'ils étaient membres les uns des autres. Et c'est intéressant de voir aussi que c'est par cette communion fraternelle qu'il se faisait que de nombreuses populations étaient attirées et se convertissaient. Il y avait les apôtres, évidemment, qui rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils avaient une grande grâce qui reposait sur eux, mais ça s'inscrivait, ce n'était pas les apôtres tout seuls. Alors, c'est les apôtres qui annonçaient l'Évangile, certainement, qui annonçaient la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, mais ils faisaient partie de cette communauté. Et cette communauté vivait la communion fraternelle. Et c'était ça qui attirait les foules. Ce n'était pas un discours, puis après vous arrivez dans une église, puis il ne se passe rien du tout. Ce n'est pas ça. Il y avait cette ferveur, cette communion qui était là. Et c'est intéressant de voir que dans les lettres de Paul, lisez, relisez les lettres de Paul, il y a quantité d'éléments qui ont trait à cette communion fraternelle. Une grande, très grande partie, ce sont des exemples. On en verra quelques-uns tout à l'heure. C'est vraiment, la communion fraternelle est essentielle pour le témoignage de l'Église dans le monde et aussi pour l'Église. Quand Jésus est parti, est-ce qu'il a donné, il n'a pas donné de traité d'ecclésiologie ? Vous êtes d'accord? Il n'a pas dit comment il fallait qu'une église soit organisée. Il n'a pas donné des points doctrinaux sur comment organiser l'église, sur de la théorie pastorale, comment être pasteur. Ce n'est pas ça que Jésus a laissé. C'est quoi? C'est un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à ça, c'est vraiment dit que c'est de l'amour entre les frères et les sœurs. En l'occurrence, Jean ne dit pas que c'est de l'amour que vous manifesterez à l'égard de ceux du dehors, non, c'est à l'égard de ceux que vous avez, de l'amour que vous avez entre vous, que ça va attirer les gens du dehors. Et c'est donc nous sommes appelés à nous aimer. Alors s'aimer, ben, c'est pas honnêtement, on n'est pas. Est-ce qu'on s'aime tous ici, humainement, plus ou moins, hein? On a des affinités avec certaines personnes plus qu'avec d'autres. Mais c'est par l'amour de Dieu que c'est possible. C'est parce que Dieu met en nous son amour pour les autres que cet amour les uns pour les autres, il est possible et il est réalisé. Et puis, c'est également quelque chose d'essentiel pour l'édification de l'Église. Une des images aussi de l'Église, c'est un temple. Hein, c'est un essai. On voit de ces Pierre qui écrit cela dans 1 Pierre 1, non, d'abord 1 Pierre 2. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et au chapitre 1, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. C'est au travers de cet amour les uns pour les autres que l'Église s'édifie, se construit. Donc cet amour fraternel, il est primordial à la fois à l'intérieur de l'Église et à la fois à l'extérieur de l'Église. Donc, l'Église est formée de chacun de nous, pour autant que nous reconnaissions Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je le répète encore, c'est un point qui est important. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ avec les personnes qui sont sauvées. On a des liens d'amitié avec les personnes qui ne sont pas sauvées. C'est clair, on ne les rejette pas, ce n'est pas du tout ça. Mais on est les uns avec les autres. Mais cette communion fraternelle, eh bien, c'est d'être, soyons, et que nous soyons en communion avec Dieu. Excusez la faute d'orthographe. Soyoni, ce n'est pas un terme grec. Que nous soyons en contact les uns avec les autres. Nous sommes donc chacune et chacun, quel que soit notre âge, quel que soit notre origine, quelle que soit notre situation sociale, nous sommes tous des pierres constitutives de cette Église locale. Et donc, ça veut dire que si nous sommes pierres de cette Église, eh bien, nous y avons un rôle à jouer. Nous y avons une responsabilité. L'Église, ce n'est pas les autres. Des fois, on se dit, ah ben, l'Église, c'est le pasteur, c'est les anciens, c'est quelques responsables, les responsables de maison, etc. L'Église, ce n'est pas ça, c'est vraiment chacun et chacune d'entre nous, à notre mesure. Dieu nous a donné des dons à chacun et chacune. Et ça, c'est écrit dans sa parole. C'est donc une vérité. Une fois encore, ce n'est pas par force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons être ces pierres qui vont former cette Église magnifique, qui vont être attractives pour le monde qui nous entoure. On a vu qu'ils étaient ensemble dans Acte 2, qui vendaient leurs biens et qui partageaient leurs produits, qui se retrouvaient tous les jours au temple, dans commun accord. On se retrouve tous les jours ici, à 6 heures le matin, puis à 6 heures le soir, que ceux qui travaillent encore puissent travailler entre deux. Ils mettaient tout en commun, qu'on apporte tout en commun, et ils louaient Dieu. Ils mangeaient ensemble aussi, c'est un aspect important, manger ensemble avec simplicité. Et le résultat de tout ça, eh bien, ils avaient la faveur de tout le peuple. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. Et chaque jour, Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés. Ça va? Oui? Alors, on voit quelques caractéristiques de cette communion fraternelle. J'ai mis en vrac, hein, il n'y a pas d'ordre d'importance, mais j'ai mis en vrac. On voit que, voilà, parler selon la vérité, s'encourager mutuellement, se soutenir les uns les autres, se pardonner aussi mutuellement, faire preuve d'humilité, respecter les autres, éviter les commérages, donner avec libéralité, passer du temps ensemble, s'instruire, s'exhorter mutuellement. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses. Relisez les lettres de Paul, de Pierre, elles ne sont pas très longues. Hein. Vous n'allez pas y passer 3 mois pour les lire. Vous pouvez les lire en 2-3 jours. Il y a plein d'éléments de ce type qui sont donnés. S'encourager mutuellement, mais aussi se parler selon la vérité. Ça, c'est des choses que parfois on a un peu de peine à faire, parce que ce n'est pas facile. Si on a des contacts avec un frère et une sœur, que l'on sait marcher dans une voie qui n'est pas celle de Dieu, est-ce qu'on l'aime vraiment si on lui dit « t'inquiète pas, ce n'est pas grave ». Dieu pardonne. Je ne suis pas sûr. Dieu pardonne, certes, dans la mesure où on se repent, où on change d'attitude, et là, Dieu pardonne. Mais si on rencontre une personne comme ça, que l'on sait vivre quelque chose qui n'est pas juste selon Dieu, ce n'est pas l'envoyer vers le pasteur, ce n'est pas au pasteur ou un ancien, mais c'est quelque chose qui se vit dans la communauté. Comme ça, tout le monde ne le sait pas aussi. De dire, écoute, ce que tu vis là, est-ce que tu penses que c'est en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que ça te pose problème ou pas? Est-ce que tu veux changer d'attitude ou pas? Parce que peut-être les personnes ne veulent pas changer d'attitude. Est-ce que tu veux qu'on prie pour ça? Et puis qu'on se revoie dans une semaine pour voir où tu en es. Il se passe au travers de cette communion qui là est vraiment fraternelle, parce que ce n'est pas rendre service à l'autre de le laisser baigner dans son jus, si j'ose dire. On ne lui rend pas service, mais ce n'est pas facile. Et puis il faut faire ça avec courage, avec amour, avec délicatesse, puis avec vérité aussi. Et là, on voit que si on est capable de s'encourager les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres aussi, de s'enseigner aussi les uns les autres, parce que ça passe aussi par une connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas juste quelques slogans, Dieu est amour, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur, Dieu pardonne, il fait preuve d'un amour inconditionnel. Ça, c'est des slogans qui sont extrêmement limitatifs de qui est Dieu, qui ne donnent pas la mesure et la grandeur de la sainteté de Dieu. Alors que nous puissions vraiment nous encourager mutuellement, qu'on puisse soutenir, qu'on puisse faire preuve d'humilité aussi. Ça, c'est extrêmement important. Ne pas croire qu'on a tout compris. On n'a jamais tout compris. On n'a jamais tout compris tant que nous sommes sur cette terre. Et puis, voilà, éviter les commérages, éviter de... Voilà, on sait comment on est des fois. Hein. Je parle pour moi aussi. Je ne suis pas mieux que n'importe qui d'autre. Mais Dieu nous demande d'éviter cela, de passer du temps ensemble. Et en passant du temps ensemble, c'est là qu'on apprend à se connaître. C'est là qu'on découvre qui est l'autre que l'on a en face de soi. Et puis, quelle est sa situation? Parce que là, on est dans quelque chose. Là, je vous parle à vous qui êtes là. Je ne connais pas votre situation, à beaucoup d'entre vous, à certains oui, mais c'est un message qui est commun, qui est général. Certains d'entre vous vont se reconnaître, d'autres pas. D'où l'importance de vivre des choses ensemble, aussi en plus petits groupes. Dans les LA, je ne peux pas m'empêcher de parler des groupes de maison, parce que là, on peut apprendre à se connaître. Là, on peut ouvrir notre cœur à l'autre quand on a confiance en lui. Si on ne se connaît pas, je viens vers l'une ou l'autre d'entre vous que je ne connais pas plus que ça, puis je lui dis, est-ce que tu ne voudrais pas partager ton cœur avec moi? Non. Non. J'ai pas... Non, je ne te connais pas. Pourquoi est-ce que je le ferais? C'est donc cette importance de se connaître, d'apprendre à se connaître mutuellement, d'apprendre ainsi à voir où on en est, où est l'autre, celui qui, ou celle qui est là, qui est flambante pour Dieu et tout, et puis qui, au fond du cœur, finalement vit de grandes difficultés, vit de grandes souffrances. Ou bien la personne qui est toute calme et puis qui dit, mais j'ai la joie de Dieu dans mon cœur, je n'exprime pas comme ça, mais elle est là. Eh bien, c'est génial, on peut partager comme ça, on peut s'encourager, on peut aller vers la personne qui a besoin d'aide. Et là, on a une église qui est vivante, qui est dynamique, parce que il se passe des choses. Il n'y a pas des pasteurs, des anciens, des responsables du groupe de maison, mais il y a chacun et chacune d'entre nous. On peut résumer cela par ces versets de Philippiens, chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation de l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ah. On a vraiment besoin de prier pour cela, parce que je me rends compte que je me dis, mais est-ce que je veux rivaliser avec tel ou tel? Est-ce que je veux imposer mon point de vue? Est-ce que je veux ci ou ça? Alors Seigneur, viens remettre en place mes idées. Viens voir si je suis sur une pente qui est mauvaise, qui est savonneuse, pour que je puisse vraiment être dans l'humilité, dans chercher le bien de l'autre, à ce qu'il puisse être élevé par Dieu, mais que ce ne soit pas moi qui m'élève, que je ne devienne pas un gourou parce que finalement, je suis très content si tout le monde vient vers moi à la fin du culte pour me demander la prière. C'est quand même extrêmement valorisant. Ben non. C'est que nous soyons vraiment, nous restions dans l'humilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Donc, venir à l'église, je ne sais pas tellement comment on peut comprendre cette expression. J'avais envie de dire faisons l'église. Faisons l'église les uns avec les autres. On a, je l'ai déjà dit, je le répète, parce que c'est primordial, nous avons tous reçu un don de Dieu. Si les personnes ne le pensent pas, venez à la fin du culte, qu'on puisse prier pour ça, parce que c'est extrêmement important. Dieu nous dit qu'il nous a donné un don, donc reconnaissons le don qu'il nous a donné. On ne doit pas le mettre sous la table parce que, par fausse humilité. Ce n'est pas ça, c'est de mettre au service des autres. Les dons que nous recevons sont là pour qu'ils soient mis au service de la communauté, au service des autres. Donc, vraiment que nous pouvons... Il y a pour tous ces rôles dans l'Église. Et il y en a beaucoup qui mettent leurs dons en pratique déjà. Il y a beaucoup de monde. Mais voilà comme... Je ne vais pas redire, j'ai dit tout à l'heure, mais il y en a vraiment pour tous. Il y en a vraiment pour tous. Ça peut être sur le plan pratique. Quand on voit toutes les personnes qui se lèvent pour mettre les tables, pour enlever les tables lors des repas communautaires, c'est génial. Les personnes qui s'intéressent à l'accueil, qui s'intéressent même au parking, quand il fait froid et qu'il neige ou qu'il y a du soleil qui fait 40 degrés sur ce parking, c'est génial. Et puis tous les autres aussi. Qu'on ne sait pas, ceux qui font de la conciergerie aussi, ceux qui s'engagent pour venir nettoyer les locaux, etc., etc. Il y a là vraiment plein de personnes qui s'engagent. Et puis qu'on puisse s'engager aussi pour s'encourager, pour s'exhorter mutuellement. C'est un peu vraiment, c'est comme une fratrie. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai la chance d'avoir une fille qui a 6 enfants. 6 enfants entre, en gros, 15 et 2 ans. Ben c'est très intéressant d'observer ça, parce qu'il y a les plus grandes qui apprennent plein de choses à leurs petites sœurs et à leurs petits frères. Et puis, il y a les petits qui montrent bien aux grands quelle est leur place. Et là, s'ils prennent trop de place, et là, c'est pas toi, ma maman, ou c'est pas toi, mon papa. s'ils veulent gronder un peu de manière peut-être exagérée. Il y a donc un apprentissage qui se fait chez chacun. Et puis, les parents sont là, ils jouent un rôle, mais ils ne sont pas constamment avec les enfants. Ils ne sont pas tout le temps en train... Ça serait impossible, vous imaginez, être après les 6 enfants. Non, on ne peut pas. Donc, il y a ce rôle de supervision, de soutien qui est là, de remise à l'ordre quand c'est nécessaire. Mais il y a énormément de choses qui se passent dans la fratrie. Voilà, donc, vraiment... Cherchons à connaître l'autre toujours mieux, avec ses défis, ses luttes, ses joies, ses forces, ses besoins. Intéressons-nous à lui. Et pour cela, eh bien, que nous puissions, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas le faire par nos propres forces, ou bien ça tient un moment, mais et je le répète encore une fois, mais nous avons besoin vraiment de cette communion avec Dieu. Nous avons besoin, chacun, chacune, individuellement, d'être, de vivre cette communion avec Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous laisser remettre en question par Dieu aussi, de nous laisser interpeller. Parce que si Dieu vous dit toujours « c'est très bien ce que tu fais, c'est génial, je suis fier de toi, c'est cool », ben, moi je me pose des questions. Si Dieu me dit ça, je vais dire, mais Seigneur, tu es sûr que c'est comme ça, que c'est aussi bien que ça? Je crois que Dieu nous interpelle, qu'il nous remet en question. Moi, il le fait régulièrement. Et je vais dire, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Là, je me suis planté. Là, je dois développer ça. Si je pense à la communion fraternelle, c'est quelque chose qui, voilà, à laquelle j'étais assez indifférent pendant tout un temps. Et puis, c'est petit à petit que Dieu m'a appelé par rapport à ça. M'a dit, mais c'est primordial de vivre des relations fraternelles dans le cadre de l'Église. Alors laissons-nous transformer, laissons-nous interpeller par Dieu, parce que celui qu'un père aime, ben, il le reprend quand c'est nécessaire. Ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas tu t'es planté, c'est foutu maintenant. Non, c'est de l'amour. C'est de l'amour pour que nous puissions grandir. Donc on voit que la communion fraternelle, c'est autre chose que les apéros et les repas communautaires. Ben, des fois, on parle de la communion fraternelle et puis on met dedans ben, les apéros, les repas communautaires. Alors, entendez-moi bien, les apéros et les repas communautaires sont extrêmement importants. Ils sont très, très, très importants et il ne faudrait pas les supprimer. On voit que tout le temps que Jésus a fait beaucoup, a enseigné beaucoup de choses en étant à table avec ses disciples, qu'on voit qu'ils mangeaient ensemble, les premiers chrétiens. Ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur ensemble. Donc, c'est extrêmement bien, c'est cool d'avoir des repas communautaires et des apéros. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à se connaître. On apprend à se connaître les uns les autres. On peut vivre des choses qu'on ne vit pas comme ça à la sortie du culte, simplement comme ça, mais ça permet d'entretenir cette communion fraternelle, d'entretenir de la convivialité. Manger ensemble, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais c'est pas en fait. Je dirais que les apéros et les repas communautaires sont des instances, si je puis dire, qui favorisent la communion fraternelle, qui vont permettre... Alors peut-être qu'il ne va pas du tout se passer de communion fraternelle, parce qu'on va discuter de choses et d'autres. On va discuter des fantastiques victoires de Larragout, de Peramy et de Odermatt hier en slalom. On va peut-être se prendre le bec parce que certains seront... On va parler de la votation sur la 13e rente AVS, et puis il y en a parmi nous qui sont pour, et puis il y en a parmi nous qui sont contre, et puis c'est bien comme ça. On n'est pas tous avec les mêmes idées, on est tous différents les uns des autres, et nous avons besoin d'apprendre à nous connaître, et pour ça on a besoin de l'amour de Dieu, pour ne pas rester braqués sur nos positions. Ça va toujours ? Oui, bon. C'est vrai, on parle comme ça, puis... Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. dans vos cœurs, dans, si vous vous ennuyez, si ou pas, si vous êtes touché par Dieu. J'aimerais aborder un dernier point qui n'est pas des moindres, c'est qu'un des aspects importants de la communion fraternelle, c'est la libéralité, la générosité. On voit que, j'ai mis ici de nouveau les extraits des textes que nous avons lus dans Acte 2 et dans Acte 4, voilà, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, ils mettaient tout en commun, il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, ils apportaient aux apôtres et ils distribuaient selon les besoins. C'est beau. On voit aussi la puissance de l'esprit à cette époque, puisqu'on ne pouvait pas frauder. Hein. Aujourd'hui, on peut frauder. À l'époque, il y en a deux qui ont essayé de tricher avec le prix de vente de leur terrain et ils ont été frappés immédiatement à mort par Dieu. Donc, il y avait cette unité qui régnait. Et Paul parle à plusieurs reprises aussi des dons, des offrandes, des collectes. Que j'ai mis quelques versets, il y en a d'autres encore. Voilà. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire du bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux. Et là, on retrouve l'autre terme, de koinonikos, prêt à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Et puis, le verset de 2 Corinthiens 8, qui est assez extraordinaire. C'est Paul qui écrit toujours à l'église de Corinthe. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, donc je suis témoin. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est assez extraordinaire, cette église de Macédoine. Vous avez vu ça? Ils ne débordent pas d'argent, hein? Ils ne sont pas riches. Ils sont pauvres, ils sont dans l'affliction, ils ont certainement plein de problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils insistent auprès de Paul pour pouvoir participer à une collecte, non pas pour leur église, mais pour l'église de Jérusalem. C'est assez incroyable. Vous vous rendez compte? Vous voyez, vous, on va tous insister auprès des anciens du conseil pour dire, mais il faut qu'on participe à cette collecte pour telle ou telle œuvre qui est à l'autre bout du monde. Ils insistaient là-dessus. Et ils se sont montrés très généreux. C'est assez fantastique. Et on voit dans le verset, est-ce que j'arrive à revenir, précédent, que Paul écrit à Timothée d'ordonner aux riches de ne pas être orgueilleux, c'est pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui donne tout en abondance. C'est Dieu qui donne tout en abondance. Alors, si Dieu nous donne tout en abondance, qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il nous donne? Est-ce que nous le thésaurisons ou pas? Ou est-ce que nous le donnons? C'est plus à vous que j'ai dit que l'argent était comme le fumier. Que l'argent était comme le fumier, non? Non. Oui, je suis certain, oui. Oui. C'est-à-dire que le fumier, si on l'entasse, qu'est-ce qui se passe? Ça pue, exactement, et puis y a plein d'émanations diverses qui ne sont pas du tout bonnes pour le climat en plus, qui sont dégagées. Donc, si on entasse ce fumier, ça pue. Si on le répand sur les champs, eh bien, il va favoriser la récolte. Eh bien, l'argent, c'est comme ça. Si on entasse l'argent, ça va puer. Enfin, ça va nous donner des soucis incroyables. Où sont mes rendements ce matin? Ouh là là, il y a sa chute. Et ce soir, ah, ça va un peu mieux. Chic, merci Seigneur. Et puis, si on le distribue, eh bien, alors, il peut produire, il permet qu'il y ait une production à la gloire de Dieu qui se fait. Je profite de parler de cette libéralité pour juste vous toucher deux, trois mots sur la situation financière de notre Église. Et puis vous dire, c'est vrai, on vous remercie régulièrement pour vos dons, mais il faut aussi que l'on vous dise que la situation financière n'est pas bonne du tout. La situation financière n'est pas bonne. Nous n'avons pas pu honorer tout ce que nous devions honorer en 2023. Et si les pasteurs ont pu recevoir leur 13e salaire, eh bien c'est parce que nous avons dû emprunter à des personnes pour pouvoir verser cet argent. Donc je profite de rappeler, parce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles, que nous ne recevons pas d'argent de l'État, on ne reçoit rien. Quoi. Donc ce qui fait vivre notre Église financièrement, eh bien, c'est nous qui y venons. On a eu des années pendant le Covid qui étaient extraordinaires. On se disait, ben pendant le Covid, je ne pense pas tellement qu'on aura beaucoup d'argent, mais on en a eu beaucoup. Et puis 2022, là, alors ça a commencé de baisser, puis 2023, ça baisse encore. Alors je veux nous encourager, mais je ne mets pas du tout de pression, parce qu'il y a les situations des uns et des autres aussi qui sont là. Il y a des réalités, il y a des personnes qui ont quitté l'Église, qui donnaient régulièrement, certainement. Il y a des personnes qui, sur le plan financier ou au travail aussi, eh bien, sont peut-être limitées. Certaines sont peut-être au chômage. On est de plus en plus à être à la retraite aussi, ce qui fait donc avec des ressources qui sont diminuées et aussi. Mais j'aimerais nous encourager à donner, mais de bon cœur. Ça ne sert à rien, c'est pas un poids que je mets, mais c'est de se dire, Seigneur, c'est extraordinaire. Nous avons ce bâtiment, nous avons des pasteurs qui sont là, il faut bien les payer. Nous avons des activités avec les aînés, avec les repas, eh ben, ça engendre des coûts aussi, tout engendre des coûts. Alors que nous puissions vraiment avoir à cœur de bénir cette Église, là où nous sommes, c'est notre famille. Est-ce que nous considérons cette Église comme étant notre famille ou pas? Si oui, eh bien, donnons en priorité à l'Église, ce qui n'empêche pas après de faire des dons à d'autres œuvres. Il ne faut pas tout garder pour soi. J'étais frappé encore, juste en vous parlant maintenant, de voir que l'Église de Macédoine était dans les difficultés, et puis elle a voulu participer à bénir d'autres œuvres. Donc ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas Lazare first, et puis les autres après. Non, ce n'est pas du tout ça. Et puis c'est de réaliser que c'est une bénédiction de donner. C'est une liberté aussi. Moi, j'ai été longtemps avec des difficultés par rapport à l'argent, à gérer l'argent, à donner, est-ce qu'on ne donne pas trop, est-ce que si, est-ce que ça. Et puis, Dieu, eh bien, m'a délivré de ça. Il m'a dit, mais de quoi tu as peur, hein, franchement? Est-ce que ce n'est pas moi qui m'occupe des petits oiseaux qui donnent à manger aux animaux des champs, etc. Et puis, vous valez beaucoup mieux qu'un moineau. Hein. C'est vraiment là aussi que nous puissions être, s'il y a des personnes qui sont retenues par la crainte, eh bien de dire, de prier, Seigneur, viens à mon secours, viens me montrer comment je peux faire, ce que je peux faire. Et c'est une libération. Et on honore Dieu de la sorte. Ça fait partie de la communion fraternelle. Ça fait partie de notre louange aussi que d'apporter notre offrande. Alors que nous puissions vraiment être encouragés, motivés, que ce soit une joie de donner, que ce soit une joie de manifester de la communion fraternelle, d'apprendre à connaître les autres dans l'Église, que ce soit une joie d'encourager, de bénir, de s'exhorter, de s'encourager, etc., que ce soit une joie pour chacun d'entre nous. Amen. Je vais m'arrêter parce que le temps tourne et puis il y a des gens qui regardent leur montre. Alors, c'est vrai que des fois on parle trop longtemps. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu au-dessus de toute chose. Merci parce que tu es souverain, parce que tu nous as acquis à grand prix. Tu es mort pour nous et nous sommes membres de ton corps. Alors Seigneur Jésus, viens nous donner de vivre cette réalité toujours plus, les uns avec les autres, ensemble, dans la joie et dans la reconnaissance de ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Que ton nom vraiment soit béni et soit élevé encore au milieu de nous ce matin. Amen.